Et la question qu'on vous posait était la suivante. Peut-on faire confiance au Qatar quant à la libération des otages, oui ou non? Alors Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs et qu'ont-ils répondu à cette question?
Alors, la réponse est assez claire, c'est non, hein, Didier. 81% de non sur Facebook, 86% de non sur Insta. Non, on ne peut pas faire confiance au Qatar. On va demander son avis à quelqu'un qui est plus expérimenté que nous là-dedans. Édouard Kuckermann, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Vous êtes homme d'affaires et ancien négociateur pour Tsahal. Quelle confiance on peut faire au Qatar, selon vous?
Le Qatar joue un rôle important dans le financement du Hamas depuis de nombreuses années. Il a supporté le Hamas non seulement financièrement, mais également en accueillant les leaders du Hamas dans le pays. Donc on est dans une situation où le médiateur dans ce processus a été un des plus grands appuis du Hamas depuis de nombreuses années. On n'a pas le choix aujourd'hui, mais d'utiliser la voie de communication du Qatar, parce que ce sont les seuls aujourd'hui à avoir l'influence sur les Qataris avec les Iraniens. Mais il faut se méfier également parce qu'ils ont leur propre agenda.
Bien sûr. Alors, vous le disiez, Doha héberge depuis 2012, Édouard, le bureau politique du Hamas. Avant, ils étaient en Syrie. Pourquoi est-ce qu'ils sont passés de Damas à Doha?
Je pense qu'il y a un caractère évidemment financier parce que la Syrie n'a pas les moyens de supporter et de financer le Hamas. Ils ont également leur propre challenge au sein de la Syrie. Et le financement par les Qataris était pour eux essentiel pour continuer à mettre en place toute l'infrastructure militaire et l'infrastructure terroriste qui a été déployée pendant ces dernières années.
Alors, Édouard, vous qui avez déjà participé à des négociations d'otages, on dit souvent que c'est les premières minutes, les premières heures qui sont les plus importantes. Et là, évidemment, tout Israël s'inquiète parce que ça fait déjà 3 semaines et qu'on n'a pas de nouvelles. Est-ce que c'est mauvais signe?
Il s'agit d'une situation qui est unique dans l'histoire des prises d'otages parce que on a plus de 220 personnes qui ont été prises en otage. Il s'agit de terroristes qui ont une idéologie qui est pire que celle de ISIS. Dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on est dans une situation extrêmement difficile, sachant que même si l'armée israélienne souhaite intervenir le plus tôt possible avec des forces terrestres, si on peut arriver à un accord sur les otages avant l'intervention terrestre, ça permet de libérer de soulager de nombreuses familles, même si on ne peut pas vraiment dépendre de la bonne volonté des Qataris pour faire ce travail et que la pression militaire qui est exercée est le seul moyen pour obtenir des résultats.
On a l'impression, Édouard Kuckermann, que la diplomatie américaine et européenne patauge complètement dans ce dossier.
Je pense que les Américains ont conscience de ce phénomène de ISIS parce qu'eux-mêmes, ils ont eu affaire au djihad islamiste à Mossoul et dans d'autres régions. Je pense qu'il y a également du côté européen, des leaders européens, une compréhension que ce phénomène qui touche aujourd'hui la population civile israélienne va toucher et touche déjà la population civile européenne. Et c'est vrai que peut-être plus en Europe, l'opinion publique pro-arabe joue un rôle d'influence encore plus important que ce qu'on voit aux États-Unis.
Alors, il y a eu très peu d'otages libérés, il y en a eu 4. On n'a pas compris pourquoi, ni pourquoi celle-là. Mais ce qu'on sait, c'est que, par exemple, le témoignage d'une des dernières otages israéliennes qui a été relâchée, Yocheved Lipchitz, qui est une vieille dame de 80 ans, a paradoxalement profité au Hamas, Édouard, puisqu'elle a dit qu'ils avaient bien été traités. Et en gros, on se dit qu'évidemment, la malheureuse, c'est parce que son mari est toujours détenu dans les geôles du Hamas et que donc elle n'avait pas d'autre choix que de tenir ce discours.
Je pense que la plupart des médias ont quand même pris en compte cet élément qu'il y avait effectivement le fait que son mari est encore kidnappé par le Hamas et que personne n'a vu dans la libération d'une personne âgée un geste bien d'une bonne volonté, mais juste le résultat d'une pression continuelle qui s'exerce par l'armée israélienne. Pour nous, en tout cas en Israël, le message, c'est qu'il faut continuer à faire pression sur le Hamas avec avec force et tous les moyens militaires dont on dispose.
Bien sûr. Alors hier, les familles des otages ont organisé de nombreuses manifestations, notamment à Tel Aviv, mais aussi dans plusieurs capitales européennes, à Bruxelles où se trouve la radio, à Paris, à Madrid, pour demander entre autres aussi que la Croix-Rouge puisse aller voir les otages. Est-ce que ça serait un premier pas envisageable que l'OMS ou la Croix-Rouge puisse aller vérifier l'état de santé des otages ?
Moi, je pense pas qu'Israël doit se limiter à juste vérifier l'état de santé des otages. Je pense qu'il y a une vraie demande de la part du Hamas qu'on œuvre avec un couloir humanitaire, de la même manière qu'on doit aider la population civile à Gaza. On doit également libérer tous les otages israéliens. Et pour ma part, je trouve que ça doit être une condition sine qua non pour aider la population civile. De libérer les otages, il y a un couloir humanitaire qui est indispensable pour les otages autant que pour la population civile de Gaza.
Oui, mais est-ce que c'est réaliste, Edouard Kukerman, aujourd'hui ? Parce qu'on comprend bien que pour le Hamas, ces otages sont leur assurance vie, si j'ose dire.
Le Hamas a toujours eu cette attitude d'utiliser la population civile comme bouclier humain.
Exact.
Et essayer d'utiliser évidemment les otages pour notamment libérer les prisonniers du Hamas en Israël. Mais la règle du jeu doit changer. Et c'est pour ça que ce qui a été fait jusqu'à présent, où les Israéliens ont pris en compte le besoin de la population civile à Gaza en donnant un soutien avec le transfert financier des Qataris en permettant aux travailleurs de venir de Gaza en Israël, en permettant de fournir l'eau et l'électricité, toutes ces règles du jeu doivent être changées. Alors c'est vrai que ça a été le cas pendant de nombreuses années, mais au vu de ce qui s'est passé le 7 octobre, on doit changer les règles du jeu. Et pour ma part, je suis plus porte-parole de l'armée depuis quelques années, donc je peux m'exprimer personnellement. Je trouve que ça doit être une condition sine qua non pour donner un support à la population civile, qu'on libère les otages israéliens. Et c'est vrai qu'il y a une pression internationale qui est très forte, mais ça doit être pour nous indispensable de d'abord libérer les otages avant de donner une aide humanitaire.
Bien sûr, mais malheureusement, j'ai l'impression que là-dessus, on n'est pas les seuls à décider tout de même, Edouard, et on veut conserver, j'imagine, le semblant de soutien international qu'on a actuellement.
Oui, mais ce n'est pas le soutien international qui affecte la population civile israélienne.
Ouais,
il y a
vrai.
Une guerre qui a été initiée par le Hamas contre l'État d'Israël. On doit défendre la population israélienne. C'est une guerre de survie parce que si on les laisse développer et accepter le genre d'attaque comme ils l'ont fait, une attaque barbare et horrible comme ils l'ont fait le 7 octobre, à ce moment-là, pour nous, c'est un processus qui va se dégrader et qui va être encore plus renforcé et dangereux pour l'État d'Israël. Il y a un signe qu'on donne dans notre action aujourd'hui qui ne concerne pas seulement le Hamas, mais également tous les régimes pro-iraniens qui sont supportés, les proxys iraniens qui agissent à l'encontre de l'État d'Israël, en particulier le Hezbollah. Et je pense qu'il faut, il faut changer les donnes et la manière de négocier avec le Hamas.
Ma dernière question, Edouard Kukerman, justement, changer la donne par rapport au Hamas, ça veut dire quoi pour l'armée israélienne ? Ça veut dire hâter encore plus l'incursion terrestre ?
Je pense qu'il n'y a pas de choix. Il faut agir également avec les forces terrestres. J'ai deux fils qui sont soldats combattants, dont un qui est officier d'unité qui a combattu le 7 octobre. Donc c'est pas facile pour moi de dire il faut le faire. Moi-même, j'ai été à nouveau rappelé dans mon unité de négociation. Donc on est dans une situation où on connaît le prix à payer, le risque, mais le prix à payer de ne rien faire est encore plus cher. Donc on va devoir intervenir et on va devoir agir pour que ce genre d'action ne se renouvelle plus jamais.
Édouard, une toute dernière question rapidement. On entendait beaucoup d'officiers de Tsahal dire il faut gérer la guerre comme si les otages n'existaient pas et gérer les otages comme si la guerre n'existe pas. Est-ce que c'est possible ça?
Je pense que c'est un raisonnement très militaire, c'est vrai. Chacun doit se focaliser. Ces deux actions qui doivent être menées en parallèle et c'est très dur de le faire dans le contexte actuel parce que on sait qu'en agissant en attaquant les tunnels, il y a également la population civile israélienne qui est malheureusement kidnappée et se trouve dans les tunnels aujourd'hui. Mais je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de mener les deux actions le mieux possible en parallèle.
Merci beaucoup Édouard Kuckermann, ancien négociateur pour Tsahal, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. On souhaite des jours meilleurs à tout Israël. À bientôt.
Merci à vous.